André Vaucher, vous êtes un historien médiéviste, et vous avez écrit une thèse qui porte sur la sainteté en Occident médiéval dans les derniers siècles. Comment se fait-il qu'un historien médiéviste s'intéresse à la sainteté ?
Effectivement, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, à la fin des années 1960, on m'a considéré un petit peu, je ne dirais pas comme un fou, ça serait excessif, mais enfin comme personnage un peu étrange. Du côté de l'université laïque, on trouvait ce sujet tout à fait abracadabrant. La sainteté, ça relevait de la religion, ça relevait pas de l'histoire. Et je dois dire aussi du côté chrétien, catholique. Au début, on m'a plutôt découragé en disant « mais vous n'êtes pas théologien, vous n'êtes pas clair, donc je ne vois pas très bien ce que vous allez pouvoir raconter d'intéressant sur la question ». Donc je me suis un peu accroché parce que j'étais déjà, et je suis encore plus 40 ans après, convaincu que tout est objet d'histoire, y compris les choses les plus saintes, et que d'autre part, la sainteté, comme toutes les autres manifestations du religieux, s'incarne dans des temps, dans des hommes, et donc est une matière historique. Et que s'il y a une idée de sainteté théologiquement définissable, bien sûr, le contenu, la façon dont cette notion a été vécue au cours des siècles a singulièrement varié. Et donc je me suis dit que la sainteté était probablement un bon objet d'histoire. Je n'ai pas été le seul d'ailleurs, parce que dans les mêmes années, dans les années 60, 70, 80, il y a eu toute une génération d'historiens, on peut le dire sans exagération, pas seulement en France, mais en Italie, aux États-Unis, qui se sont mis à s'intéresser à ce sujet dans une perspective historique. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de faire l'apologie de tel ou tel saint, d'exalter telle ou telle figure plus qu'une autre, mais d'essayer de comprendre ce qu'avait été l'idée de sainteté, l'idéal de sainteté d'un homme, d'une génération, d'un milieu social, d'une nation.
Pourquoi la sainteté ? Vous auriez pu prendre les institutions ecclésiastiques. Vous avez choisi la sainteté. Est-ce qu'il y avait un parcours qui a permis, une rencontre qui a pointé sur cet aspect ?
Tout à fait. Les gens de ma génération, donc disons qu'il y avait 30 ans en 1968, les chrétiens parmi nous étaient évidemment très marqués par Vatican II et par l'accent mis par le Concile sur l'appel universel à la sainteté. D'autre part, l'histoire des institutions, justement, avait un peu monopolisé l'attention des historiens. Disons que je ne me sentais pas attiré spécialement par cela, dans la mesure où il me semblait qu'il n'y avait plus grand-chose de très neuf à faire. Et quand on est jeune, on veut faire du neuf. Et donc je suis au contraire parti dans le domaine le plus abracadabrant, a priori, le plus étrange, le moins étudié, parce que ça me paraissait susceptible d'offrir des pistes originales. Voilà. Et avec d'autres, nous avons construit en 20 ou 30 ans une histoire de la sainteté. Alors pourquoi partir du Moyen-Âge ? Parce que j'avais décidé de travailler, de faire une thèse dans le domaine de l'histoire médiévale, mais je crois que c'est pas non plus uniquement pour cela, parce que j'ai voulu étudier un tournant important dans l'histoire de la sainteté au sein de l'Église catholique. À partir du XIIe et surtout XIIIe siècle, la papauté prend les choses en main, commence à se réserver le monopole des canonisations et introduit surtout un type de document que j'ai pu exploiter, sans quoi j'aurais pas pu faire grand-chose d'original, ce qu'on appelle les procès de canonisation, c'est-à-dire on commence à auditionner des témoins, à leur poser des questions, pourquoi est-ce que vous considérez que X ou Y est saint ou sainte, y compris sur les miracles d'ailleurs, etc. Donc il y avait un nouveau type de document là, qui apparaît à partir de autour de 1200, puis plus on va vers la modernité, plus ce type de documents sont nombreux. Et beaucoup de ces documents étaient ou inédits, ou certains étaient publiés mais n'avaient jamais été étudiés, si bien que je suis arrivé dans un champ qui était vraiment très vaste et en même temps presque vierge.
Quand vous regardez votre thèse, quand vous regardez en arrière et tout ce qu'il y avait déjà, un peu comme le cœur d'une fleur qui s'ouvre, vous aviez déjà dans votre thèse beaucoup de choses et notamment des saints. Quels sont ceux qui aujourd'hui vous habitent et qui peuvent faire le lien avec le Concile Vatican II ?
Oui, alors j'ai dans mon livre étudié plutôt des catégories de saints, des formes de sainteté, plutôt que des individus. On n'y trouvera pas une biographie de saint Dominique ou de saint François. Ce n'était pas mon but. Mon but était de montrer qu'il y avait une efflorescence de sainteté au Moyen-Âge, de nouvelles saintetés, parce que par ailleurs, on continuait bien entendu à vénérer les saints traditionnels, disons les apôtres, les docteurs de l'Église. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'était les nouveaux saints, les saints qui apparaissaient à ce moment-là, qui étaient vénérés dans la chrétienté, enfin d'abord localement, puis ensuite dans certains cas, dont le culte s'étendait à la chrétienté tout entière. Donc je ne me suis pas lancé à une série de biographies, mais il y a des figures qui m'ont d'emblée retenu, d'abord celle de François d'Assise, sur laquelle je suis revenu il y a quelques années, parce que j'ai eu bien l'impression de l'avoir un peu négligé, enfin d'être passé un peu rapidement, dans la mesure où il n'a pas laissé de procès, on n'a pas conservé son procès de canonisation, il y en a eu un, mais très rapide.
Alors on peut s'arrêter quelques instants sur François d'Assise. François d'Assise, l'Église l'homme qui prenait l'Évangile au mot. Parmi toutes les choses qu'on connaît déjà, vous, qu'est-ce que vous lui avez trouvé de particulier ?
Ce qui m'intéresse en lui, qui m'a intéressé en lui dès le début, c'est le fait qu'il est un saint laïc, même si à la fin de sa vie, il a reçu le diaconat, semble-t-il, c'est pas tout à fait sûr, mais enfin, probable. Laïc en ce sens qu'il ne se destinait pas du tout à la prêtrise ni à la vie monastique, donc il était marchand, fils de marchand, donc il se destinait à une carrière mondaine. En plus, il aspirait à être chevalier, riche, seigneur, etc. Donc il avait des grandes ambitions sociales, comme on dirait aujourd'hui, de promotion sociale. Et donc il arrive, finalement, il a cette rencontre avec le Christ, cette conversion. J'ai parlé plutôt de retournement parce que ça s'étire sur 3 ans ou 3 ans et demi, donc c'est pas quelque chose de brutal, mais où il prend conscience de sa vocation et que sa vocation, c'est au fond d'annoncer l'évangile au monde, de refaire ce que le Christ avait fait avec ses disciples et ses apôtres et de représenter l'évangile au monde comme quelque chose qui peut être vécu, que l'évangile n'est pas un ensemble de préceptes ou un idéal abstrait, lointain, mais qu'on peut très bien vivre au jour le jour, au quotidien, selon l'évangile. Et avec ses compagnons, il en donne le témoignage. Donc ce laïc qui essaye de vivre totalement, mettre ses pas dans les pas du Christ et vivre de façon purement évangélique, profondément évangélique, m'avait beaucoup frappé, oui. Parce que c'est aussi un thème que j'ai pas mal étudié, puis ensuite dans d'autres livres, c'est l'apparition à partir du XIIIe siècle d'une sainteté des laïcs. Jusque-là, les saints sont presque tous des évêques, des moines, il y a très peu de saints laïcs. À partir du XIIe, mais surtout au XIIIe, les choses changent. Il y a véritablement un laïcat qui s'affirme. Il y a Saint François, mais il y a beaucoup de personnages moins connus. Il y a un saint italien, Saint Homebon de Crémone, qui est le premier saint laïc non noble canonisé par Innocent III en 199. Et puis, apparition aussi au XIIIe, fin XIIIe, début XIVe, de la sainteté mystique de femmes. C'est une grosse poussée de sainteté féminine qui sont souvent, le plus souvent, des femmes laïques elles-mêmes, comme Marguerite de Corte, d'Angèle de Foligno, enfin, il y a toute une génération, disons, à partir de Claire d'Assise, mais ce n'est pas la seule, loin de là, de femmes qui assument elles-mêmes leur vocation religieuse et qui arrivent même à un degré d'intimité avec Dieu, avec le Christ, qui fait d'elles des espèces d'intermédiaires, de visionnaires et d'intermédiaires entre le sacré et l'humain.
Quelle est la différence entre la sainteté du Moyen-Âge et la sainteté du XXe siècle ?
Alors, elle est considérable dans la mesure où la sainteté médiévale est toujours liée au miracle. Donc un saint, c'est d'abord quelqu'un qui fait des miracles, et surtout après sa mort, dont les reliques font des miracles. Il y a aussi l'importance de l'ascèse, le fait de se priver, donc quelqu'un qui vit non seulement dans la sobriété, mais dans la pauvreté aussi, et qui s'inflige à lui-même des châtiments. Cela dit, ce qui est quand même fondamental dans la prise de conscience de la sainteté, c'est le rapport avec le surnaturel, au sens le plus large du terme. Les gens ont besoin, les gens du Moyen-Âge avaient besoin d'intercesseurs, d'intermédiaires, entre une vie quand même très dure, et puis le monde de l'au-delà qui leur paraissait bien lointain. Et donc, ils avaient besoin, peut-être plus que nous aujourd'hui, d'intermédiaires, de relais auxquels ils puissent demander d'intercéder en leur faveur auprès de Dieu, etc. Donc, saints sont absolument fondamental, non seulement pour les individus, mais aussi pour les collectivités. Parce que chaque pays, à ce moment-là, avait son, ou plutôt ses saints patrons, chaque ville, qui était l'occasion de fêtes, de cultes, etc. Donc on a tout un aspect social aussi du culte des saints. Il ne faut pas uniquement voir ça comme une relation individuelle entre l'homme et Dieu, mais une médiation de la société. Et la société se réfère sans arrêt à des saints.
Alors justement, vous dites, entre autres, dans votre livre sur Saint François d'Assise, « Si rien ne se fait sans les hommes, rien ne dure sans les institutions. La sainteté au Moyen-Âge, oui, mais avec, incarnée dans l'histoire, dans les institutions.
Voilà, parce que l'histoire de la sainteté, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. On s'imagine uniquement les saints tout à fait dans la ligne, ne posant aucun problème. Mais ce n'est pas du tout ça. Le discernement de la sainteté. Or, au Moyen-Âge, il y a beaucoup de personnes qui étaient considérées comme saintes, par exemple ceux que nous appelons des hérétiques, qui n'étaient pas forcément hérétiques objectivement, mais enfin qui étaient contre l'Église, qui contestaient les Vaudois, par exemple. Il y avait des gens qui vivaient de façon très évangélique et qui étaient considérés par les populations rurales surtout, mais pas seulement, comme des gens, des saints, quoi. Et donc l'Église intervient justement au XIIIe siècle pour faire un discernement en disant il ne suffit pas de vivre saintement pour être un saint, il faut que l'Église se retrouve en lui, le reconnaisse comme tel. Il faut aussi la fidélité à l'Église, et c'est C'est justement tout le problème de François, c'est qu'il est extrêmement conscient, et bien plus que d'autres encore, de toutes les insuffisances du clergé de son temps, de toute la dureté, disons, certaines exigences de l'Église en matière de pouvoir, d'argent. Mais en même temps, il dit à ses frères tout de suite, et aux gens à qui il prêche, en dehors de l'Église, on ne peut qu'errer. Donc à la fois, il tient qu'il est animé, qu'il a reçu une vocation de Dieu, qu'il a un charisme prophétique, on dirait aujourd'hui, et en même temps qu'il faut rester soumis à l'Église. C'est pourquoi, d'ailleurs, le pape s'empresse de le canoniser quelques mois après sa mort. Oui.
Vous êtes un historien, vous êtes un chrétien, ouais. Et on a l'impression qu'au cours de votre parcours, vous avez toujours voulu voir les points d'incarnation.
Oui, tout à fait. Je me reconnais parfaitement dans cette définition, parce que justement, la sainteté, par exemple, je me suis refusé à la considérer uniquement comme un ensemble de vertus ou comme un programme ou un concept théologique, et j'essaie de voir comment elle s'est incarnée dans l'histoire. Voilà, donc moi, en tant qu'historien, mais aussi en tant que chrétien, parce que je crois que c'est une démarche qui n'est pas seulement historique ou scientifique, je suis toujours parti de la réalité vécue et non pas d'un idéal abstrait ou lointain, et cette insertion dans les lieux est quelque chose qui nous ramène toujours au concret. Oui.